prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sermon sur la montagne. Sixième partie, les noms de Dieu.
Notre étude sur le sermon sur la montagne. Alors, on avait déjà vu pas mal de sujets. On avait commencé par les béatitudes. Ensuite, on avait parlé du sel et de la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. On avait poursuivi notre réflexion par la loi confirmée, le meurtre, le divorce, le caractère chrétien, le formalisme religieux la fois dernière. Et puis cette fois-ci, eh bien, nous allons tout simplement parler de la prière royale. Vous la connaissez, hein ? La prière des prières que Jésus nous enseignait dans le sermon sur la montagne, la prière royale, le Notre Père. Mais nous allons prendre simplement un aspect de cette prière, c'est-à-dire les noms de Dieu. Alors, je vais m'expliquer. Et nous allons refaire donc cette lecture. Nous allons la repasser et nous allons donc ensuite commenter. Voilà donc Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. Ce sont les paroles qui nous sont laissées par Jésus. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, nous allons simplement nous concentrer sur, simplement ce verset, parce que nous n'aurons pas le temps ce soir de faire l'ensemble de cette prière royale, le commentaire de cette prière, mais simplement, j'aimerais donner une extension à cette simple phrase, quand Jésus nous dit « que ton nom soit sanctifié ». Alors, vous savez que le monde sanctifie le nom de Dieu à sa façon et parfois, souvent même injurieuse. La manière dont les gens considèrent ce nom de Dieu. Et vous savez que dans la loi de Moïse, dans les 10 commandements, il est dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, le nom de ton Dieu l'Éternel en vain. » Et on sait pertinemment, et ça c'est quelque chose qui est assez choquant pour les chrétiens, les hommes qui connaissent le Seigneur, de voir que le nom de Dieu est mis finalement dans des paroles de mécontentement, de colère, d'injures, de jurons et toutes sortes de choses. Alors ça c'est le monde qui sanctifie, on pourrait dire, le nom de Dieu à sa manière. Et puis quant au Notre Père, la manière dont les hommes finalement considère ce Notre Père, j'ai imaginé une parodie du Notre Père, vous la retiendrez ou non, parce que ce que nous avons lu, c'est Jésus qui le dit, à la gloire du nom de Dieu, de son Père céleste. Mais cette parodie, c'est une parodie du Notre Père, et c'est un petit peu finalement la manière dont les hommes considèrent les choses, considèrent Dieu. Alors écoutez bien, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais c'est pourtant comme cela, qu'à travers les paroles travesties, les paroles déformées, dénaturées, eh bien le monde considère souvent les choses. Alors écoutez bien, le Notre Père est version de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça commencerait comme ça. À tous nos frères qui sont sur la terre, que ton nom soit sanctifié, que notre règne arrive et notre volonté soit faite au ciel comme nous la faisons sur la terre, selon ce qu'il nous plaît. Nous mangeons notre pain quotidien à la force du poignet, imbu de nos capacités illimitées, nous ne pardonnons pas les offenses de ceux qui nous ont dit la vérité. Nous allons au bout de la tentation car nous aimons le mal. Car c'est à nous qu'appartiennent tout le temps que nous dominerons ici-bas l'égoïsme, la cupidité, la rébellion, l'orgueil, la cruauté, l'emportement et la traîtrise, sans oublier la violence parce que nous aimons le plaisir plus que Dieu en qui nous ne croyons pas. Version de ceux qui prétendent connaître Dieu mais finalement qui vivent comme ils en ont envie de vivre. Alors que le Notre Père nous dit tout autre chose, c'est la sanctification du nom de Dieu. La recherche de la gloire de Dieu attachée à son nom, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous disons, doit être à l'honneur de Dieu et de son nom que nous portons, de telle manière qu'il ne soit pas discrédité. Parce que si nous avons un langage d'une manière et que nous vivons d'une autre manière, que nous avons des actions qui sont complètement à l'inverse de cette belle proclamation, de cette belle prière, de cette prière universelle, alors à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que le nom de Dieu soit sanctifié. Il y a des millions et des millions de gens qui répètent et qui répètent et qui ne cessent de répéter le Notre Père, parce qu'on l'aura appris de cette manière. Ça vient en infraction à ce que Jésus nous a enseigné. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, mais il semblerait que finalement, ils n'ont jamais lu l'Évangile. Et qu'à ce moment-là, eh bien, dans leur vie au quotidien, la réalité de leur vie, eh bien, le nom de Dieu est discrédité. Le nom de Dieu est sanctifié quand notre vie, quand nos actions sont réglées d'après sa parole. Et la norme, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne les normes, les principes, les repères qui nous sont nécessaires. C'est elle qui dirige. C'est pas nous qui, finalement, eh bien là, faisons un petit peu selon notre pensée, mais c'est elle qui va eh bien, nous inspirer en toute chose, qui va régler notre vie, et que nous marchons comme lui-même eh bien, a marché, parce que la Bible nous dit d'une manière très claire que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, en fonction de ce que nous avons, de ce que nous savons, et de la manière dont nous vivons les choses. Et Jésus d'ajouter dans l'évangile de Jean, si ma mémoire est fidèle, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que le nom de mon Père céleste sera glorifié. » C'est le fruit, c'est le correspondant, c'est le produit fruit de ce que Jésus eh bien, nous enseigne. Alors, autour de cette parole que Jésus nous laisse, j'aimerais aller un peu plus loin. Et ce soir, nous allons faire une étude étymologique, c'est-à-dire la signification, la racine même, le sens à donner au nom de Dieu, mais les noms au pluriel. Vous avez remarqué, puisque c'est le sujet ce soir, Jésus nous dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est saint, ton nom est juste. » Ton nom est éternel, que ton nom soit sanctifié. Et dans la Bible, lorsque nous ouvrons ce livre de Dieu, nous nous apercevons que les noms de Dieu dans la Bible disent et nous révèlent ce qu'il est dans son essence, dans ses profondeurs. Et comment le connaître? Nous le connaissons par son nom. D'ailleurs, la connaissance des hommes, les uns vis-à-vis des autres, passe aussi par connaître le nom. Mais connaître le nom de monsieur un tel, j'entends des noms tous les jours, hein, des noms connus, des noms qui sont fameux. Mais ce n'est pas pour ça que je les connais intimement. Et Dieu nous parle. Dieu s'adresse aux hommes à travers l'Évangile, à travers sa parole, que pour que nous le connaissions dans son intimité, dans sa personnalité, dans ses prérogatives, dans toutes ses qualités, puisqu'il est Dieu et il veut se faire connaître comme cela. Donc les noms de Dieu disent ce qu'il est. C'est un nom vénéré et ineffable, qu'aucun langage ne peut l'exprimer ou le décrire. Alors, la seule chose qu'il nous reste, c'est tout simplement de nous mettre à la portée ou nous mettre à la disposition de son enseignement. Alors, il y a différents noms génériques ou noms à caractère, en effet, très fort, qui caractérisent Dieu. Alors, nous avons par exemple le mot Elohim, nous avons Yahvé, nous avons également dans notre Bible l'Éternel des armées, nous avons Adonai, le Saint d'Israël, et puis un nom que je réserve à la fin puisque c'est le nom de l'Évangile, c'est celui dont Jésus nous parle. Je ne le dis pas pour l'instant, on le verra d'ici quelques instants. Donc, je répète, le nom de Dieu est un nom vénéré et un nom ineffable. Alors, on va commencer par Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu unique et incomparable. Elohim, il est véritablement réservé à Dieu seul. Il pourrait se traduire de cette manière, c'est l'être suprême, c'est l'être fort et puissant. Déjà, nous avons une notion de cette force qui nous dépasse et de cette puissance. Elohim convient à celui qui est le créateur de toutes choses. Quand je parle de Dieu, de sa création, de son état d'être créateur, alors à ce moment-là, je comprends mieux le sens d'Elohim. Elohim, donc créateur de toutes choses. Dans la Bible, Elohim est utilisé 2319 fois, ce qui n'est pas rien pour nous parler du Dieu créateur, pour nous dire que il est à la base de tout, de toute vie, de toute création. Et le nombre de fois dont il est cité dans cet aspect, 2319 fois dans l'Ancien Testament, nous montre que notre Dieu est celui qui est le Créateur. Ça, c'est d'abord la première approche. Il nous est dit que nul ne peut être agréable à Dieu parce qu'il faut croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur, il est le créateur, finalement, de toutes choses. On pourrait peut-être l'étendre sous cette version. D'Elohim découlent des appellations qui expriment le caractère et les attributs divins. Et vous allez en reconnaître quelques-uns, parce que quelquefois, ça vous arrive de les entendre en prédication. Donc, en tant que créateur, la marque du caractère et des attributs qui appartiennent à Dieu. El Shaddai. El Shaddai, c'est un mot que nous chantons quelquefois dans des cantiques, ça veut dire Dieu Tout-Puissant, celui qui a la suprématie, la souveraineté sur tout, El Shaddai. Il y a un autre nom qui vient, c'est El Elyon, Dieu Très-Haut. Non seulement il est Tout-Puissant, mais il règne dans cet infini qui est incommensurable, qu'on ne peut pas nous-mêmes finalement comprendre ni atteindre. Il est El Elyon. Il y a El Olam, c'est aussi les paroles d'un cantique, qui veut dire le Dieu d'éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il règne, il vit à jamais, il demeure d'éternité en éternité, El Olam. El Gana, c'est le Dieu jaloux. Et nous savons que la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie des hommes. C'est une sainte jalousie. Elle n'a rien de comparable, finalement, à ce que nous qualifions cet adjectif jaloux, ça n'a rien de comparable. El Gana. Et puis El Haï, c'est le Dieu vivant. Alors quand vous mettez tout cela ensemble, autour de ce nom générique Elohim, tout puissant, très haut, d'éternité, Dieu jaloux et Dieu vivant. Ça, c'est la caractéristique, et retenez que, véritablement, c'est la marque de ce Dieu qui est créateur. Voilà, Elohim. Le deuxième point qui caractérise les noms de Dieu, le nom de Dieu, c'est Yahvé. Vous avez probablement entendu parler de ce nom. Yahvé est cité 6400 99 fois dans l'Ancien Testament. Alors vous le retrouvez sous une autre, ça dépend des versions, rendu en français, dans nos traductions françaises, par l'Éternel. D'accord ? Yahvé, traduit par l'Éternel, et se présente en hébreu sous forme de tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire, un tétragramme ? C'est tout simplement, eh bien, une prononciation, ou tout simplement la quatre lettres, qui exprime, autant qu'on puisse le faire, eh bien, Dieu. Quatre lettres. Y, H, V, H. Qui signifie ce que Dieu se déclare, d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, celui qui est. On pourrait rejoindre celui qui est d'éternité, celui qui est vivant, entre autres. Donc, ce tétragramme, c'est une affirmation, je ne voudrais pas être très compliqué, mais c'est une affirmation métaphysique de l'être éternellement présent. Et vous savez que Jésus a laissé dans son testament de l'évangile de Matthieu, les derniers mots de cet évangile de Matthieu au chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. On sait qu'il y a un mot qui a été dérivé de Yahvé, de ces quatre consonnes, donc tétragramme, c'est le mot Jéhovah. Quand, c'est une prononciation erronée de l'hébreu qui est apparue donc, autour de ces quatre lettres, c'est une prononciation courante depuis le XVIe siècle. Mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on a mis des voyelles. Entre le Y et le H, on a mis un E. Entre le H et le V, on a mis un O. Entre le V et le H, on a mis un A, ce qui a donné Jéhovah. Mais ça, c'est quelque chose que les hommes ont composé. Le véritable nom, c'est Yahvé. C'est ce mot hébreu. Et on en a fait toute une doctrine de Jéhovah. Hein? Mais c'est ainsi. Ça fait partie des... peut-être des dépassements que les hommes se sont autorisés. Donc je disais que c'est l'être éternellement présent. Je suis, qui veut dire je suis, ou je suis celui qui suit. Je suis tout simplement, en hébreu, qui veut dire un mot assez compliqué à prononcer, et et. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait l'accent, mais c'est la traduction hébreu. Origine et terme de toute existence. Je dis bien l'origine, donc créateur. On a parlé d'Elohim tout à l'heure. Et le terme de toute existence. Dieu unique sans limitation et affirmation, donc, de ce Yahvé. C'est le Dieu qui veut s'unir à l'homme et lui donner la vie. Et non seulement la vie en tant que créature sur cette terre, mais lui donner une autre dimension, c'est-à-dire cette vie spirituelle qui nous donne la plénitude de la révélation de ce qu'est Dieu et de ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Yahvé a ses racines dans l'être et le vivre, puisqu'il est vivant. C'est-à-dire que non seulement il est à l'origine de ce que nous sommes en tant qu'être, mais il nous rend vivants. Il est lui-même la vie. Et c'est un témoignage dans sa nature même, un témoignage d'immortalité, de vérité, de présence constante. Et c'est ce que nous dit Jacques, en quelque sorte, lorsqu'il nous parle de Dieu. Il nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Yahvé, il demeure. Il est toujours le même, il n'y a pas de variation. Et cela se rapporte aussi au Dieu de la rédemption qui sauve l'homme. Yahvé révèle l'essence même de Dieu dans ses intentions bienveillantes. Je donne quelques exemples. Je ne vais pas dire Jéhovah, puisque c'est un terme inapproprié, mais je vais dire Yahvé. Yahvé Jireh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez l'histoire d'Abraham. C'est Dieu pourvoira. Et ça, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Parce que celui qui a dit qu'il pourvoirait à nos besoins, qu'il pourvoirait à toutes nos aspirations qui nous portent vers lui, eh bien, c'est lui qui va les réaliser. Yahvé Jireh. Il y a Rapha, c'est l'Éternel qui te guérit. C'est celui qui se manifeste dans l'Ancien Testament, mais qui se manifeste d'une manière admirable et physique, réelle, à travers la personne et la venue du Messie, la venue de Jésus. Puisque quand vous ouvrez les évangiles, vous verrez que toutes les pages sont parsemées de guérisons et de manifestations de la guérison venue du ciel. La guérison divine dans l'évangile est une doctrine à part entière. Et ce n'est pas une doctrine d'hier, c'est une doctrine d'aujourd'hui, qui se saisit par la foi et qui est chère à notre cœur, puisque pas mal d'entre nous ont fait l'expérience, d'une façon ou d'une autre, eh bien de ce que Dieu est capable de nous guérir. Donc il est donc Yahvé Jiré, celui qui pourvoit, Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il y a encore un autre terme, Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière, vers lequel et derrière lequel je marche. C'est une bannière de victoire. On pourrait peut-être dire, à l'instar du Cantique des Cantiques, eh bien, c'est la bannière de l'amour qu'il déploie sur chacun d'entre nous. Et ça, ça nous fait rentrer également dans ce caractère même de l'Évangile qui parle de la grâce et de l'amour de Dieu. Donc, Yahvé Nissi. Si je vous dis Yahvé Shalom, alors tout le monde connaît la signification en hébreu, hein, Shalom, c'est le Dieu de paix. Et le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous voulons suivre est un Dieu, le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu de paix qui est venu pour donner la paix aux hommes. Mais cette paix, elle ne passe nécessairement que par, finalement, eh bien, ce qui est absolument incontournable, c'est-à-dire la repentance, c'est-à-dire la conversion des hommes, à travers une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Et là, la paix nous est donnée. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il est Yahvé Shalom. Yahvé Raha, l'Éternel est mon berger. Vous connaissez le fameux psaume 23, eh bien, c'est ça, l'Éternel est mon berger, qui rassemble finalement eh bien, tout le caractère même de Dieu, de cette approche, de cette tendresse, de cette intimité, de cette familiarité même à la limite. Puisque à un moment donné, lorsque vous lisez le psaume 23, David parlera « L'Éternel est mon berger, il » et à un moment donné, il y a cette familiarité, il l'appelle « tu ». Voilà, voilà, « tu ». Donc, ce rapprochement. Et là, nous ne sommes pas loin justement de ce Dieu manifesté par Jésus dans l'Évangile et qu'il appelle le Père Céleste. L'Éternel est mon berger, Yahvé Raha. Et un autre terme qui découle de Yahvé, c'est Yahvé Sikenu, l'Éternel notre justice, parce que Dieu est aussi un Dieu de justice, un Dieu de vérité, un Dieu qui établit la justice. Et la véritable justice, elle se trouve, elle se rencontre. Autant elle est pressentie dans l'Ancien Testament, elle est là, en quelque sorte, prête à être révélée, mais elle ne va se révéler que dans l'Évangile, parce que la véritable justice, ce n'est pas la nôtre. La véritable justice, c'est celle qui a été accomplie par Jésus-Christ en satisfaisant pleinement, totalement, la volonté de Dieu en mourant pour chacun d'entre nous. L'Éternel est ma justice, Yahvé Tsikenu. En un mot, le caractère ou le Dieu qui répond à tous nos besoins, et connaître Yahvé, c'est connaître Dieu dans sa nature, dans son caractère, dans ses attributs, dans sa souveraineté, son œuvre de justice et de salut. C'est ainsi que nous pouvons le découvrir. Alors on a parlé d'Elohim, Dieu créateur, de Yahvé, où là, eh bien, nous le rencontrons dans son caractère intrinsèque, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ce qu'il est, dans sa justice et dans son salut. Et puis un autre terme qui revient très souvent dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées. On n'en entend pas parler dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'est, on pourrait dire, si nous voulons l'expliquer le plus simplement possible, c'est le rapport avec Dieu, ce rapport avec Dieu, le Créateur Tout-Puissant, le Dominateur Universel et Suprême, le Maître du Ciel et de la Terre, régnant sur les hommes. En quelque sorte, le terme grec de l'Éternel des armées pourrait être, un mot aussi difficile, potokator. Ça ne vous dit rien, mais ça veut dire tout ça, en quelque sorte. C'est-à-dire ce Créateur Tout-Puissant qui est dominateur, qui est souverain, finalement, dans le ciel et sur la terre. Il y a un mot pour lequel nous sommes peut-être beaucoup plus familiarisés, c'est le mot Adonai. Et là aussi, c'est souvent, nous l'employons dans nos cantiques, Adonai. C'est quelque chose qui nous rapproche peut-être de ce caractère et de cette tendresse divine. Ça signifie « maître et seigneur » et il est utilisé 427 fois dans l'Ancien Testament et c'est un terme qui exprime la souveraineté de Dieu, un Dieu souverain qui est au-dessus de tout. Donc, La créature lui est dépendante en tout, ce que les hommes ont oublié depuis bien longtemps, en pensant qu'ils sont suffisamment forts, qu'ils sont suffisamment intelligents, qu'ils sont suffisamment sages pour dire, eh bien, Dieu n'existe pas, nous ne pouvons nous satisfaire par nous-mêmes. Et nous sommes dans un monde où, véritablement, eh bien, le mot Adonai est tombé en désuétude dans l'esprit des gens, et même chez les chrétiens, chez les gens qui se disent chrétiens, en tous les cas, qui appartiennent à un christianisme d'où qu'ils viennent. Mais le mot Adonai, c'est véritablement cette soumission, cette dépendance de la créature en toute chose. Et quand on retrouve, à travers les pages de l'Évangile, les promesses de Dieu, la communication avec Dieu par la foi, alors à ce moment-là, on se remet sous la dépendance d'Adonai. C'est-à-dire en disant, eh bien Seigneur, maintenant tu es le maître de ma vie. C'est ça la conversion, en quelque sorte. De dire, eh bien Seigneur, tu es non seulement mon sauveur, le sauveur de mon âme pour l'éternité, mais tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui règnes. Je veux que tu règnes sur mon cœur, je veux que tu règnes sur mon âme, sur mes pensées, sur ma vie en tout. Et tu es Adonai. Ce qui suppose que l'homme est à son service, par droit de création, et auquel il lui doit obéissance. Et cette obéissance n'est pas une obéissance servile, d'esclave, de soumis qui courbe la tête, mais une obéissance volontaire et joyeuse, et dans l'amour. Ça change tout. Ça, c'est véritablement eh bien, ce que nous révèle le message de l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent d'Adonai est kurios en grec. Ça veut dire Seigneur. Et très souvent, dans notre traduction du Nouveau Testament, les apôtres, les uns et les autres, parlent de Seigneur. Alors, c'est Adonai. Et puis, il y a un terme également qui parle fort, particulièrement dans l'Ancien Testament, naturellement. C'est le Saint d'Israël. Ça, c'est encore, ça fait partie des noms de Dieu, le Saint d'Israël. Qui signifie le vrai Dieu dont la sainteté est parfaite. Alors, c'est un pléonasme, parce que quand c'est saint, c'est parfait. Et quand c'est parfait, c'est saint. Mais on pourrait le dire comme ça, peut-être pour expliciter un peu la chose. Et ce vrai Dieu dont la sainteté est parfaite, qui rend son caractère même par son ineffable pureté. Il y a la notion de pureté chez Dieu. D'ailleurs, dans le livre d'Habacuc, au chapitre 1er, verset 13, il est dit ceci, que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Donc, le Saint d'Israël, son horreur du mal, sa haine du péché, sa grandeur suprême, sa gloire et sa majesté, en un mot, son incorruptibilité. C'est ça le Saint d'Israël. Et puis, simplement, et je terminerai sur cela. Dans le Nouveau Testament, un nom nouveau fait son apparition. Nous avons parlé d'Élohim, de Yahvé, de l'Éternel des armées, d'Adonai, de Saint d'Israël. Mais je crois que le plus beau des noms, le plus grand de tous les noms qui nous est cher à chacun, parce que nous sommes des hommes de la Nouvelle Alliance, nous sommes des hommes qui avons fait une expérience, non pas par... héritage ou succession, et par expérience personnelle, alors à ce moment-là, ce nom nouveau qui fait son apparition, c'est une véritable révolution, et Jésus nous a appris ce que pouvaient être les révolutions, même dans le sermon sur la montagne. On l'a vu déjà les fois précédentes, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'amour et la haine. Alors à ce moment-là, c'est une révolution, c'est un nom inédit, et ce nom, c'est le mot Père. Et vous avez vu que le Notre Père, c'est, commence par Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Yahvé, ce n'est plus l'Éternel des armées, ce n'est plus Adonai, ce n'est plus le Saint d'Israël, mais c'est mon Père céleste, le mot Père. Alors il y a une notion tout à fait particulière, très forte, magnifique, merveilleuse, qui nous fait toucher jusqu'au cœur même de Dieu, le Père céleste, ou le Père qui est aux cieux. Et c'est Jésus qui nous le révèle. C'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle approche, dans laquelle, alors à ce moment-là, nous rentrons dans quelque chose qui nous était inconnu, qui était inconnu aux hommes. Pour un chrétien, le nom de Dieu n'est pas quelque chose de très grand, de très vaste, il l'est aussi, naturellement. Mais nous avons quelque chose de beaucoup plus proche, d'une proximité, d'une communion, d'une intimité, je connais, et le mot connaître révèle véritablement l'intimité. Le nom apparaît comme une révélation d'amour et de lumière. Et il signifie aussi Abba. Abba, Père, Abba. Le sens et le contenu du nom Père attribué à Dieu nous est offert par Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a appris à dire notre Père. Et ça me donne une relation tout à fait différente. Je ne suis plus une créature seulement. Je ne suis plus un homme parmi les hommes, un juif parmi les juifs ou un païen parmi les païens convertis. Mais je suis un fils, je suis une fille. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça change tout, hein ? La relation est tout autre. Elle est d'une autre dimension. Et cela en qualité de fils de Dieu lui-même, parce que Jésus pouvait nous apprendre cette prière. Et il va l'illustrer par l'enseignement de magnifiques paraboles, telles que le fils prodigue. Parce que si vous voulez connaître le sens du mot père, ben vous lisez l'histoire du fils prodigue. Et si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Et là, nous pouvons dire que nous connaissons vraiment le cœur de Dieu, à travers cette parabole qui était appelée d'ailleurs la perle des paraboles. Ou alors, ce Notre Père, la prière universelle, ou encore la sublime prière sacerdotale que vous avez dans Jean chapitre 17. Fils et Sauveur, envoyé par le Père pour le salut des hommes perdus. Parce qu'il y a une relation. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez extraordinaire. Que Dieu a voulu qu'on l'appelle Père alors que nous étions ennemis, que nous étions en rébellion, en révolte ouverte contre lui. Et il a fait de nous des enfants. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a absous. Il nous a transformés. Et maintenant, nous sommes de sa famille. Alors ça, c'est vraiment un retournement de situation pas possible, parce que compte tenu de l'état de l'humanité, de notre état personnel, que véritablement nous rentrions en grâce et dans sa faveur, et que après l'avoir insulté, offensé, l'avoir rejeté, repoussé de mille et une manières, il nous dit maintenant, tu es mon fils, tu es mon enfant. C'est quelque chose d'inconcevable. Quand on est ennemi, on est ennemi. Hein? Mais là, les choses ont été réunies. Et cette paternité divine qui par la croix où Jésus est mort pour nous, ainsi le Père donne une deuxième fois. Il donne, écoutez bien, une deuxième fois la vie à ses créatures qui deviennent à leur tour des enfants de Dieu. Il nous a donné par droit de création d'être ce que nous sommes, mais par droit de rédemption, il nous a fait ses enfants. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et j'aimerais simplement terminer par le prologue. Et nous verrons la prochaine fois le reste de la prière, tout simplement, du Notre Père. Nous verrons, nous passerons par le détail. Mais écoutez, et si nous voulons être convaincus de ce qu'est la portée, la dimension, l'intensité de ce mot, écoutez, je vais relire simplement les quelques premières paroles du prologue de Jean dans l'évangile du même nom. Il nous est dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, création. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, le souffle, l'être, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui croient en lui. Et il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux. Et là, nous passons dans la dimension de la rédemption qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui, c'est Jésus qui nous a appris à dire ce mot merveilleux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors nous verrons la suite la prochaine fois.